Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Est-ce qu'à votre avis, on a fait le tour du sujet, prisonnier de l'inutile, les liens qui nous attachent, ou est-ce que vous aviez encore d'autres choses à partager ou à ajouter? Le bâton de palabre, s'il vous plaît.
Je voudrais juste dire par rapport à ce dont on a parlé sur l'avenir, moi, ce n'est pas le grand futur qui me gêne, c'est le petit. C'est-à-dire, ouais, il ne faut pas que j'oublie le pain, il ne faut pas que j'oublie d'accrocher le linge, des trucs d'un futur immédiat, mais qui sont toujours... c'est aussi une peur, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est pas des plans, c'est des trucs à pas oublier qu'il va falloir faire, mais pas tout de suite. Mmh. Et ça, c'est comme une espèce de pollution, souvent, pour moi.
C'est-à-dire que tu as la liste des courses quand tu t'assois pour méditer qui se passe en boucle?
Pas, même pas. Non, je peux être en train de faire autre chose. Je veux me détendre en faisant une activité quelle qu'elle soit. Je dis, ah, faut pas oublier ça, faut pas oublier ça, faut pas oublier ouais. ça, etc. Ouais. Et c'est. Ouais. Ça gêne un peu la détente.
C'est pour ça qu'il est vraiment important de s'accorder des moments de « le monde va continuer à tourner sans moi ». Et ça sera très bien. On peut appeler ça une vacance, dans le sens qu'on laisse un espace ouvert, et de se donner ça de temps à autre, pour que ça devienne comme une sorte d'habitude, à être capable de laisser le monde être, sans la peur que tout s'effondre. Même ne serait-ce que, moi j'appelle ça des micro-méditations. Un moment dans la journée, entre deux tâches, par exemple, si tu travailles l'ordinateur, tu ouvres un fichier, tu finis, avant d'ouvrir le prochain, tu prends trois respirations. Voilà, ça. Et puis, tu peux tout à fait te dire, ce moment-là, il est libre parce que c'est un petit peu comme l'espace qui apparaît dans la méditation entre deux pensées. Une pensée s'élève et puis elle disparaît, elle se résorbe dans l'esprit qui l'a vu naître. Et il y a un instant, parfois, avant qu'une autre pensée s'élève. Donc, quand on médite, on arrive à un moment où on peut voir, c'est comme s'il y avait un agrandissement et on pouvait voir l'espace davantage entre les pensées. D'ordinaire, tout est collé. Hein, on a resserré tout ça et c'est tout collé. Donc, on ne voit pas les espaces. Mais quand on voit cet espace, il faut s'y installer avec délice pour aussi longtemps qu'il dure. Parce que quelque part, il est intemporel. C'est un espace, on a quitté, c'est un peu comme dans un voyage. On a quitté le port et on n'est pas encore arrivé là, on n'est pas encore à destination. Il y a un moment entre les deux, un entre-deux qui est pratiquement éternel, qui a la saveur de l'intemporel. Or, extempora, on est sorti de ceci, cela, ceci, cela. Ceci amène cela, qui amène ceci, qui amène cela, etc. Qui est la façon, on va dire, commune qu'a l'esprit de fonctionner. Un peu comme une grenouille qui saute d'un nénuphar à l'autre en permanence. Quoi. Là, quelque part, la grenouille saute, elle est au ralenti et elle flotte un peu dans l'air avant de se poser sur le prochain nénuphar. Et avoir le goût de ça, d'avoir la saveur de ce moment et le caractère délicieux de ce moment. Parce que c'est un moment d'absolue liberté. Quand j'étais très occupé, une partie de ma vie où j'étais un businessman, j'avais beaucoup de choses à faire, très peu de temps pour le faire. Et je m'évertuais à trouver des entre-deux. Je connais par exemple tous les raccourcis ou les prolongements entre Kundrling et Dakpo Kagyuling sur la route parce que c'était un moment où j'étais tout seul dans la voiture et il y avait une sorte de liberté, la liberté de l'entre-deux. On n'est plus quelque part, on n'est pas encore là et ça peut se vivre même à une échelle très rapide. Mais pour cela, il faut se donner, en manière de, d'entraînement, des petits moments volontairement construits et définis, où on se dit rien. Où on se dit rien. On est dans cet instant et on profite pleinement, on jouit pleinement, on s'installe pleinement. C'est comme parfois, je suis hébergé dans des endroits où j'ai un lit confortable et très large. Et j'essaye de toucher avec mes mains et mes pieds les quatre coins. Complètement détendu, complètement ouvert. D'avoir ça avec l'esprit quelque part. De s'installer dans cet instant qui est fugace et en même temps qui a une saveur d'éternité. Quand l'esprit... Parce que la rapidité, la vitesse, le temps sont des notions relatives. Hein? Vous savez ce que l'on dit à propos d'une mauvaise pièce de théâtre? Hein? Une mauvaise pièce de théâtre, c'est quand après une demi-heure, on regarde sa montre, parce qu'on s'est vraiment ennuyé, et on se rend compte que 5 minutes ont passé. Hein? Ça, c'est la mauvaise pièce de théâtre. Et donc, le temps, là, il nous apparaît infini. Et quand on a du bon temps, c'est jamais assez long, quoi. Ça va très, très vite. Donc, ce petit moment d'espace qui s'ouvre, il a cette qualité presque de l'infini parce qu'on ne va pas la rattacher à un avant et à un après. Et ce qui est vraiment important, justement, c'est d'entrer dans le voyage ou dans l'espace en laissant l'un et l'autre. Et donc, notre capacité à gérer le temps va devenir beaucoup plus grande. Un esprit détendu a toujours plus de temps qu'un esprit soucieux. Un esprit soucieux, un peu comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, il est essoufflé, il regarde sa montre, on est en retard, ça ne va pas le faire, il faut vraiment aller chez la reine. Mais on peut avoir une cadence qui n'est pas forcément une cadence du corps ou du temps, on peut être très rapide dans l'action et en même temps avoir une sorte d'espace infini dans cette rapidité d'action. Et ça, c'est un des acquis ou une des qualités qui naît de la maîtrise du calme mental, de shamatha chinois en tibétain. Lorsqu'on cultive ces qualités et que les expériences s'élèvent, eh bien, il y a comme une extension du temps et une plus grande clarté, puisque les qualités qui naissent dans la méditation, généralement, on les classe en trois catégories. Il y a un sentiment de fluidité et d'aisance physique et mentale, un bien-être physique et mental. Le corps est pleinement détendu, l'esprit n'a aucune préoccupation, il est conscient de ce qui s'élève, mais ne s'engage en aucune manière avec ce qui s'élève, il le laisse s'élever et disparaître. Donc il y a un sentiment de grande détente, parce que la fatigue, l'épuisement, la misère vient du fait qu'on doit toujours organiser tout. Toutes les pensées, toutes les actions, etc. Donc on devient le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. On est vraiment épuisé. Et donc on est à court de temps. Donc première qualité, l'espace, le bien-être, la détente du corps et de l'esprit. La deuxième qualité, c'est une acuité accrue. L'esprit est très clair, vif, limpide. Il n'est pas parasité par les agitations et il voit tout à fait ce qui se passe. Il voit les pensées qui s'élèvent, comme elles s'élèvent, au moment où elles s'élèvent et comment elles retombent dans l'océan de l'esprit qui a formé ces vagues que sont les pensées. Donc ça, c'est la deuxième qualité qu'on traduit souvent de façon figurative par la luminosité, la clarté. La clarté, en fait, ça veut dire l'esprit voit précisément. C'est une limpidité de la conscience. C'est pas on allume la lumière, ça n'a rien à voir avec ça. Et la troisième qualité, c'est la capacité de ne pas se laisser emporter par le bavardage intérieur. Hein, on appelle ça mitokpa en tibétain, qui veut dire la cessation de l'activité conceptuelle ou le non-engagement conceptuel. C'est-à-dire que l'on voit la pensée s'élever, mais pour qu'une pensée s'élève, se forme et en amène une autre, il faut qu'il y ait un engagement de la part de l'observateur ou de la part du penseur. Et là, il n'y a pas d'engagement. Donc, ça s'élève et il n'y a pas assez de force pour que ça tienne. Donc, ça se disperse. Et donc, on peut avoir un flot de pensée, on peut avoir un torrent de pensée, mais on n'est absolument pas dérangé par ça. D'accord? Parce qu'on n'essaye pas de modifier, d'interrompre, de supprimer ou de, comment dire, d'encourager. On laisse les choses être. Et donc, ces qualités donnent un espace qui se traduit par du temps. La clarté permet de faire des décisions, on va dire, éclairées très rapidement, dans un temps moindre que ce qu'il faudrait peut-être à une personne qui n'a pas cette qualité encore d'ouverture, de détente et de clarté. Et donc, puisqu'on a une plus grande vivacité, une plus grande acuité, un plus grand discernement, qu'on est plus vif dans la décision, on a beaucoup plus de temps pour prendre des décisions. Et donc, on peut avoir beaucoup plus de décisions. J'étais amené à rencontrer une fois en Autriche un banquier d'affaires très important, et on a comparé un petit peu nos expériences dans nos pratiques respectives, moi la méditation, lui la finance. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant cette discussion, parce qu'il me dit, voilà, moi je gère un réseau de financement, j'ai 15 000 personnes en gros qui dépendent de moi. 15 000 personnes multipliées par leur famille et tous les gens autour qui vont vivre cette famille, les commerçants, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et il dit, à chaque instant, quand je prends une décision qui va impacter positivement ou négativement la vie de 15 000 personnes. Et j'ai bien sûr souvent très peu de temps pour prendre la décision. Donc, je suis obligé d'avoir de la clarté, de la distance et d'être très vif et très présent. Je ne peux pas me permettre d'avoir mon esprit occulté par des considérations subalternes et inutiles. Et en fait, donc sa banque, une grande banque de finance, est à Vienne, et lui, il a un petit appartement dans Vienne où il va se retirer. C'est sa grotte. Il va se retirer là pour. Alors, il est arrivé à cette conclusion naturellement. C'est pas quelqu'un qui a suivi des enseignements, une voie bouddhiste et des méditations. Son travail et la conscience qu'il a développée dans son travail l'a amené à la nécessité de travailler sur son esprit pour prendre la décision la moins mauvaise ou la meilleure, on peut espérer, parce que, par compassion, il sait que ça impacte la vie de 15 000 personnes, au moins directement, c'est-à-dire ses collaborateurs. Et donc, on a comparé nos notes et il était, mais c'est génial, attends, il faut vraiment que faut que j'appelle tous mes collègues, mes amis, etc. Et puis, on vient chez toi, là-bas, dans ton monastère, parce qu'eux, ils dépensent des sommes phénoménales pour se faire accompagner en hélicoptère en haut d'une montagne vierge au Canada pour faire du ski. Je vais leur dire, gardez cet argent-là et puis on va faire une retraite de méditation. Mais en fait, ils ne sont jamais venus encore, pas à ma connaissance. Mais c'était intéressant de voir que par la nécessité de son emploi, l'a conduit à la nécessité d'un travail sur l'esprit et sa fluidité. Donc, je pense que là, il y a une piste, quelque part. Et bien sûr, il y a beaucoup de ratés, très peu de succès au début. Mais si, et ça, c'est vraiment un secret que je partage volontiers dans la méditation, c'est la durée de la méditation n'est pas garante de qualité. Je ne sais pas comment le traduire en français. En anglais, je dis keep it short, keep it sweet. Gardez votre temps de méditation court et sweet, ça veut dire mignon, plaisant, agréable. Hein? C'est pas une invention de ma part. Thakpo Trashi Namgyal déjà disait quitter le moment de méditation avant que l'ennui s'installe. Et donc, il disait, trouvez votre temps idéal Ça peut être 10 respirations, 10 cycles respiratoires, et puis faites un break. Ah, ce matin, comme demain matin, on est assis pendant une heure. J'aurais dû le dire au début, je m'en excuse. La méditation ne dure pas une heure. Elle dure une heure, mais avec énormément de tranches à l'intérieur que vous pouvez arranger à votre convenance. Quel est votre temps idéal? À vous de le connaître. Pendant 3 cycles respiratoires, 5 cycles respiratoires, vous êtes vraiment présent, détendu, etc. Et puis, arrive un moment où on commence à avoir de l'effort, de la tension, on essaye de garder le truc. Et là, c'est là où les pensées s'élèvent parce qu'il y a un trouble, il y a une distraction. À ce moment-là, avant que ça n'arrive, faites un break. Vous restez assis, vous restez en posture, mais vous pouvez lever le regard, respirer un petit peu, laisser l'esprit être. S'il veut vagabonder, il vagabonde. Il n'y a aucun problème. Et puis vous reprenez pour une deuxième tranche. Alors, la règle, c'est que la récré ne doit pas être plus longue que la classe. Hein? Donc, si vous faites une pause entre deux classes, il faut au pire qu'elle soit de temps égal. Hein? Mais vous allez voir que si vous arrivez à faire ça, il y a une sorte de une durée de qualité qui est la vôtre. Chacun est différent. Et puis, peut-être avec le temps, bah, 3, c'est simple, on passera à 5, 6, 7. Bon, une unité, hein, je prends le cycle respiratoire comme unité, mais ça pourrait être n'importe quoi. Vous allez percevoir que c'est un peu plus facile de le faire, mais tout en gardant la qualité. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez percevoir que 15 minutes, 20 minutes, je reste dans cette qualité. Il y a une habitude qui s'est mise en place. Et parce que sinon, je vois les gens qui commencent et puis bon, ils sont là. J'étais impressionné ce matin. En général, soit vous avez appris à masquer très bien, ou vous étiez quand même bien posé. Bon, mais il y a un moment où ça devient trop et on perd le fil parce qu'on est en résistance. On n'est plus. Et la méditation, c'est avant tout en détente. Thapo Trashi Nambial, dans son texte Clarifier l'état naturel, dit si on a détente ou contraction, à tout prendre, il est préférable d'avoir un petit peu de détente, voire un petit peu de relâchement, que trop de contraction. Donc, tout ça, ça c'est pour dire qu'on peut jouer sur le temps. Et en jouant sur le temps, on peut tout à fait avoir quelque part dans son esprit la liste et comment dire, le déroulé, le line-up de tout ce qu'il va y avoir à faire, sans que ça devienne très fort, très lourd, parce que ça ne va pas occulter ce qu'on fait dans l'instant. Une fois que cette tâche est terminée, on prend la suivante. Une fois que cette tâche est terminée, on prend la suivante. Mais si le futur vient parasiter le présent est encombré d'un futur qui n'existe pas, et donc on est un petit peu comme une personne qui souffre de déficience de l'attention, qui n'arrive pas à sélectionner une information parmi les milliards d'informations qui arrive dans son continuum d'esprit. Donc, je crois qu'on peut gagner beaucoup de choses avec cette pratique du calme mental et l'habitude, et de aussi de se libérer de temps à autre du devoir. Je dois bien faire, j'ai un engagement, etc., etc. Parce que quelque part, c'est bien d'avoir un sens du devoir, un sens du bien faire, mais comme toute chose, s'il devient obsessif, il va empêcher l'exercice de ce qui est à faire parce qu'on est écrasé par la pesanteur de la pensée obsessive du devoir. Et donc, de s'accorder des vacances, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être loin et long. Hein? Dans l'entrée dans la voie des Bodhisattvas de Shantideva, il y a un chapitre qui traite de la persévérance et de l'énergie enthousiaste, etc. Et tout le chapitre, c'est épuisant parce que c'est Jetez-vous dans la méditation comme si vos cheveux étaient en feu, comme si le monde allait s'écrouler. C'est le fouet, on sent le fouet qui claque au-dessus de la tête. Et on arrive à la fin du chapitre et on est là, épuisé. Et le dernier quatrain dans ce chapitre, ou l'un des derniers quatrains dans ce chapitre, dit « Ceci étant dit, il est vraiment important de savoir prendre du recul et du repos comme un bodhisattva pour reconstituer, ressourcer son énergie pour pouvoir reprendre du bon pied juste après. » Donc après avoir vanté les louanges de l'énergie, de l'engagement, etc., il met quelque part en garde contre l'obsession qui fait qu'on arrive au fameux burn-out où on est cramé, on est complètement, on n'est plus opérationnel, on ne peut plus rien faire parce qu'on n'a pas su prendre ces petites vacances parce qu'on avait l'impression que le monde allait s'effondrer. Vous pouvez vous rassurer, un jour vous allez mourir et le monde continuera à tourner comme d'habitude. J'ai parlé avec un ami de longues années qui était capitaine d'entreprise, qui gérait des grosses entreprises multinationales, etc. etc. Et puis, il y a eu des différends avec son N+1 et donc il a démissionné en se disant « Vous allez voir, vous allez me regretter. Vous allez vraiment me regretter parce que, pareil, je gérais 20 000, 30 000 personnes. Vous allez vraiment me regretter. » Et il disait, le lendemain, j'ai regardé les cours de la bourse, les actions, des trucs, en me disant « Ils vont plonger. » Ça n'a pas bougé. Ça n'a rien fait. Il n'y a aucune différence. Hein? Les cimetières sont emplis d'indispensables. Donc, ça, c'est un mantra qui est quand même vraiment important et savoir que on peut oublier le monde 5 minutes. Ça ne changera pas grand-chose. Moi, j'ai pris une année sabbatique et une amie m'a dit, au début de l'année sabbatique, elle m'a dit « Méfie-toi, c'est très addictif. » Et elle avait vraiment raison parce qu'il a vraiment fallu que je me raisonne pour revenir. J'étais très bien dans le non-agir.
Tout à l'heure, vous avez évoqué l'intervalle entre deux pensées en nous suggérant de bien en apprécier la saveur. Mais je suppose qu'il ne faut pas non plus s'y attacher trop. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rechercher après un état?
C'est l'obstacle majeur de la pratique du calme mental, la recherche d'une sorte d'ataraxie. Hein, ce calme béat des Grecs, qui était apparemment l'apanage des dieux, l'ataraxie, qui est une forme finalement de perte de vivacité de l'esprit. Alors, en toute chose, point d'excès. La fameuse voie qui transcende les extrêmes, en tout point, point d'excès. Jouir de l'entre-deux n'est pas forcément lié avec un attachement à la jouissance de l'entre-deux. S'interdire de jouir de l'entre-deux par peur de s'y attacher, c'est aussi une complication qui n'est pas nécessaire. Hein, c'est Serge Gainsbourg qui écrivait « Fuyons le bonheur de peur qu'il nous quitte ». Donc on s'interdit le bonheur parce qu'on a peur de le perdre. Donc, tout ça sont des complexités linguistiques intellectuelles qui n'ont rien à voir avec l'expérience méditative. Je pense que ça vient, en grande partie, ça vient d'une honnêteté intellectuelle excessive. On veut être vraiment se prémunir contre toute chose qui pourrait s'élever. Par exemple, une expérience de félicité à laquelle on pourrait s'attacher, une expérience de vacuité à laquelle on pourrait s'attacher. Et donc, on ne va pas faire l'expérience pour ne pas s'y attacher. On s'est attaché au plaisir de ne pas s'attacher à l'expérience pour laquelle on a refusé l'attachement. Quand Shama Rinpoche enseignait les chapitres de la méditation par le grand maître Vimalamecha, donc sur le calme mental, shamatha, shiné, Il a donné en grand détail toutes les explications. Puis à un moment, je le vois qu'il commence à tourner des pages, à tourner des pages, à tourner des pages, à tourner des pages, etc. pour aller deux, trois chapitres après. Quelqu'un lui demande, mais pourquoi vous n'enseignez pas ce chapitre? Il dit, mais ces quelques chapitres-là que j'ai survolés traitent des remèdes à apporter quand vous vous attachez aux expériences méditatives. Donc, aussi longtemps que vous ne les avez pas, ce n'est pas la peine de vous encombrer avec tout ça. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je pense que, quelque part, c'était une façon de nous montrer aussi que, bien sûr, il peut se faire que dans un moment comme ça de détente, il y ait une petite envie d'y rester. Mais de toute façon, le continuum de l'esprit change très vite. La pensée suivante est arrivée. On n'est pas encore là dans une capacité à maintenir une absorption méditative, un samadhi qui soit vraiment immuable. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on peut, on a la capacité de s'abîmer presque, on pourrait dire, hein, dans un samadhi imperturbable, il peut effectivement se faire que l'on aille vers ce qu'on appelle les dieux sans forme, que l'on aille vers un attachement à une expérience, une conscience ou un sentiment d'accomplissement. On a terminé, on a fini. Et quelque part, on peut rester perdu là-dedans très longtemps. Gyanu Rinpoché nous disait une fois dans un enseignement, il dit, à tout prendre, il est préférable d'être dans les enfers que de s'absorber dans ces samadhis qui vont durer peut-être des milliers d'années, puisqu'on est pur esprit à ce moment-là. Le corps est tombé en morceaux et l'esprit est toujours absorbé dans le samadhi. Parce que dans les enfers, la souffrance est telle qu'on a envie de s'en sortir. Et donc il y a une volonté de se libérer, de s'affranchir. Alors que dans le samadhi, il n'y a même pas l'idée de penser à la possible sortie. Il faut que les causes et conditions qui ont créé l'entrée dans le samadhi s'épuisent. Il faut que les conditions karmiques s'épuisent pour que le samadhi s'interrompe, un petit peu comme on a roulé sans refaire le plein et au bout d'un moment, la voiture s'arrête parce qu'il n'y a plus d'essence. Et là, on se dit, mais on est au milieu de nulle part. Donc le réveil est un peu abrupt. Donc, viendra le temps de s'inquiéter possiblement des attachements. Mais pour l'heure, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'espace entre deux pensées. Vous savez, je compare ça souvent à ces grands posters publicitaires qui sont faits en fait de pixels ou de points. Alors, quand on est de loin, on voit une image, une voiture, je ne sais pas. Mais si on s'approche de plus en plus, on commence à voir les points. On perd de vue l'image, on commence à voir les points. Et puis plus on s'approche, plus on voit effectivement, si on zoome de plus en plus, on aperçoit même dans le point qu'il y a, pour que la couleur apparaisse, il y a toutes les autres couleurs qui sont là, il y a d'autres pixels, etc. On a complètement perdu l'image et on voit que là, il y a vraiment des espaces. Et si on continue de zoomer, on n'a que de l'espace. Et donc, le calme mental, c'est un peu ça, c'est qu'on va par la détente. La vigilance, la conscience va être beaucoup plus ouverte et on va vraiment pouvoir noter les espaces. C'est donc on pourrait dire, c'est une dilatation du temps, mais en même temps de l'espace. Parce que ni le temps ni l'espace n'ont de valeur absolue. C'est une valeur relative. Si on est une asphodèle, la durée de vie, c'est 24 heures. Hein? Un humain, ça va être 80 ans. Si on est un déva, peut-être ça va être 2000, 3000, 5000 années humaines. Hein? Donc le temps est élastique. Le calme mental met de l'espace. L'esprit détendu a beaucoup plus d'espace. Voyez de quoi je parle un peu? Oui? Et ce qui est important en méditation toujours, c'est pas de comprendre, c'est de goûter. Comprendre, c'est pour l'étude et la réflexion, c'est nécessaire. Mais quand on est dans l'espace méditatif, on n'a pas besoin d'amener son dictionnaire et de dire, ah tiens, je suis passé par clarté, félicité, vacuité, desalmetorpa, quelques langages qu'on utilise. Non, on goûte. C'est un peu comme dans la dégustation du vin, la caudalie. Vous connaissez ce terme, la caudalie? Donc c'est une unité de temps, c'est le temps que la saveur du vin reste en bouche. Et c'est très personnel, ça diffère, c'est différent d'une personne à l'autre. Et donc, vraiment, la méditation, c'est un apprentissage, c'est une expérience, c'est un. Oui, c'est savourer, c'est goûter. Et a posteriori, peut-être, en sortant de l'expérience, on pourrait dire, tiens, il y a quelque chose qui ressemble, j'ai goûté à quelque chose qui ressemblait au catalogue. Catalogue est utile, mais il ne remplace pas l'expérience. Sylvie, je vois que tu lèves ta main. Tu as une question? Vas-y, ton micro
Merci,
est ouvert.
Merci, oui. Je lève une vraie main parce que la main virtuelle, je ne l'ai pas prouvée. Merci, Tsuni, en tout cas, pour cet enseignement. Louis, j'avais une question qui date de tout à l'heure, en fait. C'est quand tu parlais d'interrompre la méditation, toutes les 10 respirations, quelque chose comme ça. J'étais un peu surprise parce que je me disais, moi, jusque-là, j'étais plutôt partie pour me dire, voilà, je lâche les pensées. Donc, si j'interromps la méditation chaque fois que je pense, ben, je risque, ça dépend des moments, mais je risque de l'interrompre souvent, il me semble. Mais, ouais, je sais pas. En fait, l'idée, en fait, je vois un petit peu ce que tu veux dire, mais en même temps, je me dis comment on peut voir le juste milieu entre le moment où de faire cette expérience dont tu parles et en même temps le fait qu'il me semble que c'est important de rester avec les pensées pour pouvoir se rendre compte qu'on est capable de les lâcher en fait. Si tu vois le truc.
Ok.
C'est clair. Ouais.
C'est bon, tu as terminé ta question?
Oui. Je ne sais pas si elle est claire pour toi, mais voilà, c'était ce truc-là. Je me disais comment je peux m'entraîner à ça, sachant que je me dis, je risque de faire de la fainéantise de méditation, c'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je suis très agitée, je sais que j'ai du mal à me mettre sur le coussin. Alors là, ce que tu nous as dit tout à l'heure, je me dis, pain béni, ça veut dire que dès qu'il va y avoir un peu une pensée qui va arriver, je vais me dire, bon, allez, j'arrête, stop. Donc, j'ai peur que ça soit un peu un prétexte à fainéantise, pour moi, en tout cas.
Merci. Finalement, c'est un petit peu l'autre côté, la peur de l'attachement, et là, la peur de la paresse. Hein? On a peur, on veut se prémunir de nos possibles excès. Alors, ce que j'ai dit à propos du temps de qualité à définir pour soi-même n'est pas forcément lié à l'apparition des pensées, c'est plutôt la capacité que l'on a à maintenir une pleine conscience naturelle. Je vais peut-être prendre un autre exemple. Si tu as envie de courir le marathon, tu ne vas pas courir la première journée 51 km. Parce que si tu fais une session de 51 km, déjà, tu n'arriveras pas au bout. Tu te seras abîmé tellement le corps et puis le courage, la motivation, que tu ne vas jamais continuer. Donc, tu commences à faire 200 mètres, 100 mètres, 200 mètres, peu importe, régulièrement. Après 200 mètres, tu es à l'aise, tu fais 400, etc. Après, tu passes 1 km. Voilà, c'est plutôt de ça dont il s'agit. C'est de arriver à définir en soi, parce que c'est très, très personnel, l'unité de temps, qui est le temps de qualité. Et bien sûr, c'est pas une invitation à la paresse ou au désengagement. Hein? Parce que comme tu le dis, il y a des jours avec et des jours sans. Bon, et en fait, qu'on soit dans un jour avec ou un jour sans, il est vital de revenir au coussin tous les jours, de s'asseoir, enfin, au coussin, dans la nature, sous un arbre, enfin peu importe l'endroit, hein, de s'asseoir régulièrement. Et si une session trop longue va nous conduire à finalement à être tendu, à être fatigué et avoir finalement un flot de pensée autour de est-ce que le gars qui sonne le gong est encore vivant? Est-ce que je dois tenir sans bouger, etc. Hein? On n'est plus dans la méditation. On est dans le combat avec soi-même. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc, pourquoi pas faire, sans pour autant, alors, je ne vais pas dire que tu vas te lever, aller boire un thé, et puis revenir, regarder un peu ce qui se passe sur Facebook, et puis revenir, mais dans la même session, tu as fait des tranches. C'est, comme on appelle ça en athlétisme, les intervalles fractionnés, voilà, fractionnés. Donc, c'est tension, effort, détente, repos. Et on fait la même chose avec la méditation. Ce qui vaut pour le corps en athlétisme, en anglais on appelle ça intervals, donc c'est pour ça que fractionner, on va fractionner la méditation. Et donc ce qui fait que l'on a des temps de qualité des deux côtés. On a des temps de qualité dans le moment où on essaye de maintenir la conscience et d'avoir par exemple l'esprit qui vagabonde, donc on revient sur le souffle et sur un support aussi longtemps que c'est nécessaire. Mais ça, on peut le faire un certain temps. Cet effort, on peut le fournir un certain temps. Quand on passe, on va au-delà de ce temps, on est dans la résistance. Et donc la résistance, c'est la tension, c'est l'épuisement. Et puis effectivement, notre corps comme notre esprit, se sentant coincé, ben, qu'est-ce qu'il pense à faire ? À s'en aller. Et donc l'esprit commence à se balader, à divaguer. Le lien qu'il ramenait, il est relâché, le corps, il commence à gigoter. À quoi ça sert ? Ça sert à rien. Donc, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que pendant le temps de qualité que l'on a défini nous-mêmes et qui va grandir, on peut espérer avec le temps, sans qu'on le recherche particulièrement, mais ça va se faire. Il a une qualité naturelle et spontanée. On fait une pause, et dans cette pause, en fait, là c'est un peu, ce serait à vous de le trouver, mais j'en parle quand même, à titre indicatif, on va s'apercevoir qu'en fait, peut-être, l'esprit il est beaucoup plus posé pendant la pause que pendant la méditation.
C'est la méditation inversée.
Méditation inversée, on pourrait dire, ouais. Effectivement. On va se rendre compte que là, ah, ben oui, mais la détente, et ça commence à nous faire prendre conscience, enfin la tête ou le cœur, ça commence à nous faire prendre conscience que peut-être la méditation, c'est cette détente-là, justement. Que le travail avec la vigilance, et etc., n'est là que pour amener en nous la capacité à apprécier et à jouir de la détente. Hein? Comme les notes de Mozart sont là pour mettre en valeur le silence entre elles. C'est comme une mise en valeur du silence. Et donc la détente, ce n'est pas juste se reposer, c'est aussi une mise en valeur de la nature fondamentale de l'esprit, qui n'est pas contrainte en quoi que ce soit, qui est libre, qui n'a ni objectif particulier, ni crainte particulière. Et on peut commencer à en avoir un petit avant-goût, même dans la pratique, on va dire les ABC, l'alphabet de la méditation, qui est la pratique du calme mental. Donc ça, c'est vraiment important de faire aussi cet exercice. Et puis, après un instant, quand on commence à sentir, okay, on peut commencer à ressentir ça. On voit le moment où on commence à frétiller un peu, hein, parce que l'effort est soutenu trop longtemps. Donc, on fait la pause. On commence, après, dans la pause, on commence à sentir le moment où on commence à être en déliquescence. On commence à penser à des choses, on est plus là, etc. Donc, c'est le temps de reprendre. Et en alternant comme ça, on va avoir une variété d'expériences, mais qui seront toujours naturelles et qui tiendront compte de notre capacité. C'est pas un temps qui est imposé par l'extérieur. Quand on dit on s'assoit une heure, tous ensemble, oui, nous sommes dans la même pièce, plus ou moins faisant la même chose pendant une heure, mais chacune, chacun fait quelque chose de différent à l'intérieur, qui lui est propre, qui lui est personnel. Il y a une grande individualité dans la méditation. Tu vois? Et donc, il n'y a pas à craindre là de devenir léthargique ou le peu d'énergie qu'on avait à faire la méditation, on l'a perdu du coup. Non, il n'y a pas. S'il y a une bonne gestion avec justement ce principe des fractionnés, tu vas voir dans ton expérience, tu vas voir que tu gagnes beaucoup. Parce que aussi, ces moments d'espace, en quelque sorte, créer un pont entre le moment de pleine conscience d'avant et le moment de pleine conscience suivant. Et donc, on va commencer presque à avoir un sentiment de continuum, c'est-à-dire que l'heure aura été vraiment employée avec des modalités différentes à maintenir ou à cultiver, à s'habituer, se familiariser avec cette pleine conscience. OK?
Ouais, merci. Tu le préconiserais aussi à des gens qui méditent depuis un petit moment ou pas? Parce qu'en fait, c'était un peu l'objet de ma réflexion. Ce que je me disais, des fois, je crois que j'ai pris un peu certaines habitudes, oui, d'avoir tendance à allonger, 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 mais des fois, je vois que j'ai des moments de, comment dire, de, je suis pas hyper concentré, effectivement, où je suis un petit peu dans le cotonnage là et c'est vrai que je me disais peut-être que je devrais effectivement revenir à me refaire des périodes plus courtes par rapport à ce que tu disais. Oui, effectivement, je sais pas, ça
Tu
peut
sais, la
m'arriver.
méditation, c'est la navigation à vue, hein. Ça dépend du temps. Il y a des jours, il y a des jours où c'est simple, tu t'assois et ça se pose. Donc, si c'est simple, cherche pas à compliquer. Et il y a des jours où c'est une bataille. Il y a des jours où on essaye de rester juste, de survivre. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on apprend à naviguer au travers de tous les temps. Et effectivement, quand on a un vent arrière, on sort toutes les voiles. Si on a un vent debout, il faut apprendre à tirer des bords. Donc on va forcément moins vite. Un vent arrière, tu cales ta barre et puis hop, tu peux aller te faire un café parce que le bateau, il suit son cap. Mais quand tu as un vent debout, bah, ce n'est pas le moment où à descendre en bas dans la cambuse pour se faire un café, hein, parce qu'il va falloir tirer avec moins de voiles, tirer des bords, etc. Donc, chaque jour est différent, chaque session est différente, mais c'est bien d'avoir dans son arsenal tes outils, toutes ces instructions, parce qu'on dit aujourd'hui vent debout, c'est pas simple, donc je vais revenir vers le fractionné. Aujourd'hui c'est jour fractionné, et parce que c'est ce qui s'impose. C'est même pas un choix conscient, c'est juste ça s'impose. Et puis après avec le temps, on peut continuer. Peut-être à naviguer avec un vent debout, mais en étant beaucoup plus détendu et en ayant moins besoin du fractionné. Mais c'est pour ça que les conseils extérieurs à ta méditation, ils n'ont de valeur qu'indicative. Ils n'ont une valeur qu'indicative. Ce qui est important, c'est ton expérience personnelle. Et surtout, ce qui est important, la voie qu'enseigne le Bouddha, c'est une voie de l'indépendance. Le Bouddha, il n'a pas créé une voie pour avoir, pendant 2500 ans, des milliers, des millions de fans qui vont le vénérer. L'intention, c'est que, en fait, quelque part, enfin, moi, je le vis comme ça. Alors, je ne sais pas si le Bouddha partageait mon point de vue, ce qui est un peu présomptueux quand même, mais bref. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens deviennent indépendants et qu'ils aient plus besoin de moi. C'est ça qui est important. Et donc, moi, j'essaie d'aider les gens à atteindre un plateau d'indépendance. Après, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et bien, maintenant, faites-le. C'est votre travail. Bon, on reste amis, on se voit, on peut continuer à discuter, mais c'est ça qui est important. Et pour cela, il faut être capable d'être maîtresse de sa méditation. De savoir aujourd'hui, il faut être beaucoup plus concentré, beaucoup plus posé, beaucoup plus attentif parce que il y a du vent et de la brume. Et donc, forcément, il faudra faire plus de fractionnés. Et d'autres jours, on est beaucoup plus limpide, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus détendu. Ça tient peut-être à la pression atmosphérique et à ce qu'on a mangé la veille. J'en sais rien. Et là, on peut être beaucoup plus ouvert, détendu et laisser les choses être. Et donc, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Mais l'idée d'une progression qui serait, au début, je faisais 5 minutes, dans 30 ans, je dois faire 2 heures. Et si je ne fais pas les 2 heures, c'est que j'ai raté. C'est une construction mentale. On n'est pas là pour faire de la moyenne ou du chiffre. Quand les gens, par exemple, s'engagent dans les pratiques préliminaires et disent, bon, on va falloir faire les fameux 100 000. Je dis, mais vous savez, les 100 000, c'est comme pour les garanties de voiture, c'est 3 ans ou 100 000 kilomètres. Hein, donc, si pendant 3 ans, sérieusement, tous les jours, vous y mettez, vous n'avez pas besoin de compter, on s'en fout. On s'en fout du nombre. C'est la transformation qui s'est passée pendant ce temps que l'on a dédié à cet exercice. Parce que si au bout de 100 000, on est aussi perdu qu'on était au début, bah, c'est que rien ne s'est passé, donc on peut en faire encore un autre 100 000. Hein. Moi, je connais des gens qui ont fait 5 fois les préliminaires et qui venaient voir Shama Rinpoche, Gendel Rinpoche en lui disant « Ouais, bah, il n'y a vraiment rien qui s'est passé. Bah, » Rinpoche leur disait bah, « On commence, si tu veux que je te dise. » On recommence.
Merci.
On a fait le tour pour cette fois-ci. On y reviendra bien d'une façon ou d'une autre, un jour. Donc, pourquoi je voudrais qu'on commence par ça? Parce que cette prise de conscience de la nature conditionnée de notre existence, les limitations de notre existence, cette prise de conscience va être la base de notre engagement à une transformation et une libération. On va vouloir s'engager dans un chemin de libération seulement lorsqu'on a pris la pleine mesure de notre aliénation. Sinon, on s'accorde. On fait des arrangements. Hein, on repeint le samsara. On repeint l'existence conditionnée en rose. Ah, c'est pas si mal que ça. Bon, bien sûr, on vieillit, on est malade, on va mourir, tous les gens qu'on aime vont mourir, et puis en attendant, ben, on est coincé dans ce corps, etc., etc. Mais on peut quand même manger une glace. Il y a quand même des avantages. Hein? Il faut vraiment aller au fond des choses et se dire, voilà, j'arrive à un point de fatigue, un point de dégoût presque. De ce conditionnement, surtout quand on arrive un petit peu à comprendre qu'il n'a pas de raison d'être. La nature profonde de l'esprit, c'est ça qui est l'ironie du truc, c'est que la nature profonde de l'esprit, elle est libre. Elle n'a aucune limite. L'esprit, il ne naît pas, il ne meurt pas, il n'est pas limité par le temps et par l'espace. Il est absolument libre, mais en quelque sorte, par habitude, par ignorance de sa réalité profonde, il se crée des limites. Déjà, il se divise. Il y a ce qui voit et ce qui est vu. Et donc, apparemment, ce qui voit et ce qui est vu, ce qui est connu et ce qui connaît, sont deux entités différentes. Donc, l'esprit façonne cette idée d'une différence entre soi et l'autre. Il n'y a aucune base, si on vraiment réfléchit à ça, il n'y a aucune base solide pour soutenir cette théorie, ce fantasme. Et puis, comme on a créé ce fossé entre les deux, eh ben, il y a une appréciation de l'objet par le sujet qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, on commence à avoir le rejet d'un côté ou l'avidité, le désir possessif de l'autre, ou bien on s'en fout, l'indifférence. Et donc, on va commencer à poser des actes et des paroles sur la base de ces mouvements confus de l'esprit. Et ces mouvements, bah, comme tout mouvement, toute action a une conséquence. Hein, une action, il y a une contrepartie. C'est inévitable, c'est physique, quasiment, on pourrait dire. Et donc, on va voir revenir à nous des choses qu'on avait tenté d'éviter. Hein, l'image que j'ai, c'est d'un gars qui est sur une barque et qui veut sauter de la barque sur la rive. Et donc, il dit, pour sauter de la barque sur la rive, il faut que je prenne mon élan. Il prend son élan, et en prenant son élan, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la barque plus loin arrive et ils sautent et tombent dans l'eau. Et ça, c'est nous, c'est Laurel et Hardy, quoi, en gros, en permanence. Hein? Donc, ou Mr. Bean, peut-être plus contemporain. Donc, quand on commence à voir ça de plus en plus précisément, et à un moment, on se dit, bon, quand est-ce que ce carnaval s'arrête, quoi? Quand est-ce que je change les fondamentaux ou pour arrêter cette machine à souffrance, quoi? Et alors, en fait, donc, pour revenir 2 minutes sur les liens qui nous attachent, en fait, dans les enseignements classiques bouddhistes, on va en trouver deux qu'on peut après ouvrir en quatre. Un, c'est ce que je viens de parler, là, les schémas émotionnels, ce qu'on appelle klesha en sanskrit, les afflictions mentales, le désir, le rejet, l'exclusion, la colère, etc., avec toutes les déclinaisons, orgueil, etc., etc. Ça, c'est ce qui entache la clarté naturelle de notre esprit, qui brouille la clarté naturelle de notre esprit. Et l'autre, c'est une méconnaissance de la réalité profonde de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le voile du connaissable, c'est-à-dire c'est un voile dans notre manière de percevoir les choses. C'est-à-dire que toute instance de conscience, une conscience visuelle, olfactive, tactile, etc., est toujours l'expérience d'un sujet, d'un objet par un sujet. Il y a toujours cette scission fondamentale dans toutes les expériences. Et donc, il faut réapprendre à percevoir et à percevoir dans la non-dualité. Alors ça, c'est le gros chantier qui va se passer pratiquement avant l'éveil. Hein? Mais avant, donc, on a le voile, ce voile donc des afflictions mentales qui peut se traduire aussi par les conséquences de ces afflictions mentales que sont les charges karmiques, les conséquences de nos actions. Donc il y a le poids, le résultat des actions antérieures qui vient polluer notre présent et qui en quelque sorte voile complètement notre perception. Il n'y a pas d'espace pour regarder plus profondément la nature de l'esprit. Les émotions perturbatrices ou poisons mentaux génèrent ce karma. Le karma génère des réactions qui vont générer d'autres réactions affligées comme ça, de cette nature-là, de la colère ou de l'avidité, etc. Et donc, c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en gros, le voile des émotions. C'est une des choses qui nous lie qui nous attache. Et de l'autre côté, il y a donc cette conscience fragmentaire dans tout moment de perception et le fait qu'elle se répète à l'infini dans ce qu'on appelle le voile des habitudes ou des schémas. On est pris dans des schémas et en quelque sorte c'est un peu comme un disque rayé, ça tourne en rond, quoi. Donc ça c'est ce qu'on appelle les quatre voiles qui obscurcissent la liberté naturelle de l'esprit. C'est comme un ciel couvert. Cause des conditions crée les nuages, les mouvements météorologiques, sans altérer le ciel qui est derrière, mais en même temps ne nous permettent pas d'expérimenter la luminosité, la chaleur d'un ciel dégagé. Et donc, il pleut, il fait froid, il fait gris, on est déprimé et on a envie d'être ailleurs. Alors qu'en fait, l'espace, la lumière, le ciel n'a jamais disparu. Simplement, il a été occulté. Donc, la première chose à faire, c'est prendre conscience de ça, parce que c'est ce qui va nous mettre sur la voie, qui va donner l'impulsion nécessaire à mettre en œuvre les outils de libération de ces quatre voiles, pour recouvrer, pour retrouver, pour découvrir, choisissez le verbe qui vous convient, la nature fondamentale et lumineuse de l'esprit, qui n'a jamais été affectée. Les nuages n'ont jamais égratigné le ciel. Et donc, quand on est à ce point-là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Qu'est-ce qu'on fait à votre avis, avant que je vous donne mon avis? C'est quoi le vôtre? Qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Quand on a cette prise de conscience-là. Combien nous sommes prisonniers de notre propre création? Presque l'ironie ou le ridicule de la situation qui fait que c'est absolument pas nécessaire. On produit quelque chose qui ne sert à rien. En pensant créer du bonheur, on crée de la souffrance. Quand on commence à voir ses traits, ses habitudes, les addictions et la souffrance qui en résulte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai entendu? On va?
On veut les changer.
On veut les changer. Si vous voulez parler franchement et prenez un micro.
Je voulais pas forcément parler, mais non, mais on essaie juste d'en être conscient et du coup d'en souffrir moins ou d'être moins dans ces afflictions dont tu parlais. On essaie juste avec cette conscience qui est peut-être subjective de dire ah attention, voilà, là je fais preuve de désir attachement ou de colère et c'est une projection de l'esprit et on essaie de pas réagir tout de suite.
Est-ce qu'à ton avis, c'est un moment agréable?
Non.
La prise de conscience?
Peut-être un peu. Derrière, on me souffle que si. Peut-être que c'est un peu libérateur.
Tu sais comment ça se traduit dans l'expérience méditative? Et c'est une question qui arrive à chaque fois. Ça, c'est la question classique. Plus je médite, plus je suis agité. Et la réponse est non, tu n'es pas plus agitée, tu es simplement plus consciente de ton agitation. Donc, la prise de conscience du sérieux du problème peut générer une forme d'abattement en quelque sorte. C'est-à-dire là, wow, il y a du boulot. Et donc, c'est là où il faut vraiment développer une forme de joie dans les petites victoires. Et de ne pas vouloir avoir des bouchées trop grandes. Hein? Et donc là, on doit se battre contre un autre travers, une autre habitude, un autre schéma qui est très grand, très fort, très vite.
Moi, ça me fait rebondir avant de faire du bouddhisme, d'être bouddhiste. J'ai fait du yoga, je faisais du yoga dans un groupe du yoga balinais. Et en fait, on était un groupe, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons.
Comme toujours, comme souvent.
Mais ils étaient là quand même, il y en avait peut-être deux ou trois. Et en fait, au fur et à mesure qu'on faisait des cours, on faisait beaucoup de respiration, beaucoup d'asana. Et on prenait conscience, comme tu le disais, de ce que nous sommes, de ce que l'on vit. Voilà. Et j'ai vu des personnes qui sont parties, qui ont arrêté parce que justement ça chamboulait leur fondation. J'avais l'impression, moi je m'en suis rendu compte aussi, qu'on est sur quelque chose de stable. On a une vie, on a un travail, on a une femme, on a un mari, on a des enfants, on a des amis. Et puis on se rend vraiment, mais vraiment, hein, on se rend compte, c'est rien du tout quoi, que c'est pas nous et qu'on subit quelque part. Parce qu'on fait comme nos parents l'ont fait, parce que c'est comme ça, parce qu'on est avec des amis. Eh bien, enfin, je ne sais pas, moi, quand je m'en suis rendu compte, non, oui, ça m'a fait un peu peur, mais j'ai dit non, j'ai envie d'essayer de savoir qui je suis vraiment et de faire ce que moi, j'ai envie. Et c'est vrai que ça coûte, mais ça donne aussi une certaine liberté. Mais la plupart des gens, alors les garçons, ils sont partis au bout de 3-4 séances et... Et j'ai des amis qui, non, ils ont dit non, non, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas parce que si on continue dans cette voie-là, de faire des exercices, on va découvrir des choses qu'on n'a pas envie de voir. C'est un leurre en fait, parce qu'on sait très bien au fond de soi. Mais ça remue, ça fait remonter des choses. Alors, soit on les affronte, soit on les laisse en l'état. Voilà.
C'est très vrai. Et je crois que tu touches le point vraiment fondamental, le point de départ. C'est avoir le courage et la volonté d'aller au fond des choses, en sachant que ça va prendre du temps et qu'il faut y aller gentiment. On ne rentre pas là-dedans avec un bulldozer. Hein, on rentre là-dedans très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse, avec beaucoup de patience, sans beaucoup d'espoir ou d'attente. Surtout pas l'idée d'une performance, d'un résultat, etc. Parce que là, c'est carrément le tueur dans le processus. Mais c'est vrai que parfois, lorsque l'on a cette expérience de l'aliénation, c'est tellement effrayant qu'on est obligé de recouvrir tout ça et en quelque sorte de faire beaucoup de bruit. Là, 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 je n'entends rien, je ne vois rien. Pour couvrir cette évidence. Et donc là, la qualité qui est nécessaire, c'est un courage, mais un courage qui n'est pas un courage de guerrier, qui est un courage de tendresse, de bienveillance. C'est un courage presque maternel, on pourrait dire. C'est un petit peu comme un enfant effrayé, on le prend par la main pour passer le passage un peu difficile. Donc c'est ce genre de relation avec soi qu'on doit établir. Mais quand on est... on amène nos vieilles habitudes, notre schéma objectif, action, résultat, avec un protocole et un programme et un calendrier de réalisation, on peut être assuré qu'on va dans le mur. Donc, il est vraiment important de se défaire, à la fois d'être engagé dans le processus de transformation profondément, et en même temps se défaire de toutes ces habitudes de performance, de temps, d'excellence et d'accomplissement. C'est un long processus de défaire ce qui a été tricoté depuis des temps sans commencement.
Ça me fait penser encore à quelque chose. En fait, aussi, on se rend compte que le corps et l'esprit, ils sont vraiment unis. Parce que bien souvent, c'est le corps qui souffre après. On développe des névroses, on développe des ulcères, on développe des... On n'est pas bien, et ci et ça. Et ça, c'est quand même... c'est dur à supporter. Quand on s'en rend compte, justement, à travers certaines postures, beaucoup de respiration, c'est insupportable. Donc, il faut tenir compte de son esprit, mais de son corps aussi, qui va de pair avec. Je trouve que c'est... Il faut... Voilà.
Oui, mais tu as tout à fait raison. Le corps et l'esprit, si tu veux, ils sont dans un... En français, je crois, on appelle ça un capital risque. Hein, en anglais, on dit un joint venture. C'est-à-dire qu'on joint nos capitaux pour une aventure financière qu'on va espérer bénéfique. Mais du coup, ils sont totalement fusionnés. Ce ne sont pas les mêmes. Le corps et l'esprit ne sont pas de la même nature. Un est matériel, l'autre est beaucoup plus spirituel. Mais il y a quelque part une interface qui était le désir d'aller vers quelque chose. L'esprit a en quelque sorte manifesté cette excroissance qu'est le corps et la projection d'un environnement que l'on perçoit au travers de nos sens. D'accord ? Donc en fait, c'est comme un déploiement dans l'esprit sur la base d'un désir et d'un engagement. Donc c'est pour ça qu'on dit que nous sommes dans le monde du désir, parce que l'esprit a été poussé dans cette aventure qu'il a créée et qu'il vit, et dans laquelle il s'est emprisonné parce qu'il a ouvert une porte, il est rentré dans un monde créé et la porte s'est refermée derrière lui, il ne la retrouve plus. Et donc, le corps et l'esprit sont intimement liés. L'interface, ce qui relie le corps matériel à l'esprit immatériel, ce sont les énergies subtiles. En yoga, on parle de prana, médecine chinoise, culture chinoise, on parlait du chi, le pneuma des Grecs. Voilà, donc... ces énergies subtiles, elles sont à la fois matérielles et spirituelles. Et donc, le yoga, c'est-à-dire les asanas, les postures, vont canaliser les énergies subtiles qui vont aussi, en quelque sorte, procéder à un nettoyage des tuyauteries encombrées. Et donc, il y a énormément de bois mort qui remonte à la surface. Et il faut que l'esprit aussi ait les moyens de les gérer. Donc, il faut qu'il y ait une conjonction de moyens, les moyens méditatifs, les moyens physiques des asanas ou du tai chi, enfin, tout ce qui va être un travail de la liaison du corps à l'esprit par le souffle, c'est une approche beaucoup plus holistique qui est nécessaire de faire. On ne peut pas simplement... la posture méditative en soi est déjà comme une forme d'asana, puisque les différents éléments de la posture correcte vont canaliser les énergies subtiles du corps qui charrient en quelque sorte les éléments et la force des éléments, la terre, l'eau, le feu, etc., et les amener dans un mouvement énergétique vers un espace de libération. Mais tout ça, il faut le faire avec beaucoup de, je dirais, j'essaie de trouver un adjectif, je dirais une détermination tendre. Une détermination tendre et une persévérance douce. Hein, ça peut paraître, je mets deux mots qui sont un peu persévérance, c'est plutôt on avance, et douce, c'est plutôt on est gentil. Hein. Une persévérance, une détermination douce, et une détermination tendre, c'est-à-dire qui prend soin du corps. Parce qu'effectivement, la posture dans les sutras, il y a une histoire qui est très belle, je trouve. C'est un yogi qui médite et il est dans la jungle et donc il fait ses exercices méditatifs. Et il y a des singes qui le voient. Et les singes, ils aiment bien imiter. Donc il y a un singe qui prend la posture et qui médite. Et qui se surprend à avoir une expérience méditative par le simple fait d'avoir imité le yogi. Hein? Et puisque nous sommes dans de ce désir de stabilité, on veut un idéal et ensuite on veut le figer. On veut pas qu'il bouge. Hein? On a des enfants et on voudrait les traiter comme des bonsaïs. Hein? On leur coupe les petits pieds, comme ça ils grandissent pas, ils restent tout petits, tout mignons. Hein? Ou bien on a créé une situation idéale. La belle maison, la belle famille, tout. Maintenant, tout le monde sourit, personne ne bouge. Et on n'aime pas le changement. L'esprit en général est plutôt conservateur et statique. Il n'est pas facilement et naturellement dans l'appréciation du flot, du mouvement et du changement. Parce que le changement, c'est le bordel. Il faut emmener les meubles, etc. Les déménagements, c'est épuisant. Donc, l'idée d'être un nomade, pour beaucoup de personnes, c'est insupportable. Hein? Et donc, si quelque chose dans notre vie remet en question cette stabilité illusoire, il faut tout de suite jeter 3 pelles de sable dessus pour le couvrir. En pensant qu'on va revenir à la normale. Mais on se trompe. Donc, une fois qu'on a fait cette découverte, en fait, il n'y a pas vraiment d'échappatoire, il faut y aller, quoi. Mais il faut y aller justement avec persévérance, détermination, mais tendresse et douceur. Sinon, on va se brûler. C'est intéressant ce que tu dis là, qu'il y avait une majorité de femmes et très peu d'hommes. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais j'ai fait une retraite aussi l'année dernière en Slovaquie. On était une trentaine, il devait y avoir trois bonhommes dans le fond. Ils étaient dans le fond, on ne les a pas entendus pendant toute la retraite. Et à la fin, j'ai demandé à tout le monde, qu'est-ce que vous avez trouvé pendant ces 4-5 jours qu'on a passé ensemble? Qu'est-ce que vous rapportez à la maison? Et donc, tout le monde avait quelque chose à dire, etc. Et un des garçons, il a dit, « Ouais, je rapporte à la maison ce que j'ai amené ici. » Mais après, bon, c'était intéressant. On a eu une discussion aussi entre mecs, et c'était intéressant. Et c'est pas qu'il ne s'est rien passé, mais c'est une façon différente de gérer tout ça. C'est une façon différente. Demain, j'aimerais parler, échanger avec vous à propos de la nécessité d'une lignée de transmission du savoir-faire, pas simplement du savoir, mais du savoir-faire. La transmission du savoir, c'est une chose, mais la transmission de l'expérience. Parce que la transmission du savoir, elle peut se faire par différentes modalités. De nos jours, si l'on veut étudier le bouddhisme sérieusement, on peut aller à l'université. On peut même en faire un métier, on peut avoir un doctorat, on peut devenir maître de conférence, etc. Donc, on connaît le bouddhisme, mais on ne l'a pas goûté. On n'a pas goûté, on n'a pas fait l'expérience des enseignements et de ce qu'il nous invite à découvrir. Et donc, pour faire cette expérience, on a besoin de l'assistance de quelqu'un qui peut nous guider, un dégustateur expérimenté qui va nous apprendre à déguster. Et ce n'est pas forcément dans un cadre universitaire, académique, que ça va se passer. Ce n'est pas forcément par une accumulation de savoir. Mais c'est par une transmission d'une expérience qui vient d'un courant. Quand on dit une lignée en tibétain, c'est le même mot que flot. Hein? Un flot d'expérience qui est passé. Comme une bougie allume une autre bougie, sans pour autant perdre sa flamme. Elle allume l'autre bougie. Donc, l'importance de la lignée, et dans l'importance de la lignée aussi, qu'est-ce que le maître, l'ami spirituel, l'instructeur du dharma, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce important? Ou est-ce qu'on peut faire autrement? Les écueils aussi, dans cette relation à un ami spirituel ou une amie spirituelle. Donc, réfléchissez un petit peu à tout ça ce soir. Et puis demain, on parlera un petit peu de ça. C'est un sujet pas simple. Pas simple, parce qu'entre d'un côté l'abandon de midinette ou un peu comme ça romantique, et l'autre côté, le ni Dieu ni maître, il y a un moyen terme à trouver là, quelque part. Est-ce que le maître est ce qu'il paraît, ou est-ce que ce n'est qu'un miroir qui nous renvoie vers l'image de notre propre nature d'éveil que l'on n'a pas encore su voir? Voilà, des questions à explorer pour demain, si ça vous va. Hein. Et comme le dialogue est ouvert, on peut aussi partir dans une autre direction si ça s'élève. Hein. Il y a pas, c'est juste un prétexte, hein, de thème. Après, on peut explorer d'autres directions et, au gré des questions qui s'élèvent. OK? Bien. Bon, bah, là, je vois que ALJCA, PMC, MFB, MS, MER, MHVA, YC, je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous à demain.
Merci beaucoup. Bonne nuit aussi.
Merci. Bonsoir à tous.
Oh, il y a des visages derrière les acronymes.
Merci, LT.
Bonsoir.
Bonsoir.
À demain.
Bonsoir à tous.
Très bien. Bon, ben voilà. Allez, on va partager, offrir les quelques qualités qui sont nées de cette soirée. Par cette vertu, le grand saut promptement réalisé, tous les êtres sans exception en cet état, puissions-nous les établir. Par ces bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue et les ennemis funestes vaincus, des flots troublants de naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan des possibles, ce qui erre, puissions-nous délivrer. Merci beaucoup. Merci à vous, toutes et tous. Rendez-vous demain.
Merci Tony, à demain.
Au revoir. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Ciao.